France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Fédération française du droit humain. Bonjour à tous et à toutes, Alain Kleinman pour une émission consacrée à l'art. L'art est une source d'inspiration et de réflexion franc-maçonnerie. Nous pratiquons en loge ce que l'on appelle l'art royal, qui repose sur des techniques, des rituels et une transmission de savoir. À l'image de la peinture ou de la poésie, il utilise des symboles, des rites et des allégories et vise à l'éveil de l'individu. Nous sommes également les propres acteurs de nos rituels qui se rapprochent d'une forme théâtralisée où la musique, les décors du temple, la gestuelle ont toute leur importance. Nous considérons que l'éducation artistique, esthétique, constitue un chemin privilégié par lequel l'homme parvient à éprouver sa propre humanité. L'œuvre d'art développe une forme de sensibilité qui permet notre travail central d'introspection. C'est une source vivante de partage et d'enrichissement spirituel. L'art propose aussi un questionnement sur la lumière, l'harmonie, la recherche de sens et de vérité. À ce sujet, Paul Klee a dit « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Ce qui signifierait que l'artiste est capable de transmuter une réalité cachée en une forme perceptible, que ce soit une émotion, une idée ou quelque vérité, que ce soit à un instant donné. Avec nous aujourd'hui, pour échanger, nous accueillons Alain Kleinman. Bonjour Alain Kleinman.
Bonjour Hervé.
Bonjour Anne.
Bonjour Hervé.
Peintre, sculpteur, plasticien, acteur, vous aimez la philosophie, les mathématiques, l'écriture et les arts martiaux. Vous travaillez sur le passé, la mémoire, mais votre art est ancré dans le présent. La gamme chromatique de vos œuvres va des bruns, des ocres et des sépias au blanc. Ce sont les couleurs d'un vieux grenier, dites-vous. Vous êtes un artiste reconnu et vos œuvres ont fait l'objet de plus de 200 expositions à travers le monde. Je vous laisse donc la parole, Anne et Alain Kleinman, avec cette première question, Anne.
Merci Hervé. Alain Kleinman, pour commencer, pensez-vous qu'il y ait une forme de symbolisme dans la peinture ?
Alors, ça commence par une question compliquée et profonde. Peut-être qu'un début d'explication se trouve dans la fameuse toile de Magritte « Ceci n'est pas une pipe » qui représente une pipe avec en dessous la phrase « Ceci n'est pas une pipe ». C'est-à-dire que ce qui est représenté n'est pas l'objet, l'essence de la pipe n'est pas le dessin de la pipe. Quant aux mots qui viennent en dessous, c'est encore une autre symbolisation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a un niveau, excusez-moi de diluer la question, mais où on peut penser que tout est symbolique. C'est-à-dire que dans les années 70, on s'est intéressé en sémiologie à la distance entre le signe et le sens, c'est-à-dire entre le symbole et ce qui est symbolisé. Et même les mots que je suis en train d'utiliser sont autant de symboles qui parlent de réalité conceptuelle, de réalité, etc. Donc, on navigue dans des zones très très compliquées. Alors, évidemment, la maçonnerie a peut-être un autre rapport au symbolisme qui est très présent, qui effectivement permet de fixer toutes sortes d'agrégats de travail autour. Moi, ma réception n'est pas celle-ci, c'est-à-dire que je me méfie en général des symboles parce qu'on les prend pour la réalité elle-même. Et donc, il y aurait là-dedans une sorte de confort référentiel, si on peut dire, qui fait qu'on croit avoir saisi un objet de réel alors qu'on s'en est peut-être éloigné.
C'est un peu un piège, alors.
Ça peut l'être, et c'est la, à vrai dire, c'est la même question pour les mots eux-mêmes. Quand on passe d'un langage naturel à un autre, on voit quelquefois qu'une même notion peut avoir différents mots dans un langage, un seul dans un autre, une allusion dans un troisième. C'est-à-dire que tout ça, on peut appeler les mots, on peut les appeler des symboles ou des signes. Et derrière ça, ça fait appel à des réalités qui sont multiples ou qui sont les mêmes. Donc, j'ai toujours eu une sorte de méfiance par rapport au contentement qu'on peut avoir à penser avoir coiffé un sujet alors qu'on l'a d'une certaine manière détourné. Alors la peinture, a fortiori, c'est un langage de forme, de matière, de couleur, d'espace. Donc ça n'est pas un langage d'idées, de mots, de concepts. ça les évoque, mais en même temps, hiatus duquel il faut vraiment tenir compte. C'est-à-dire qu'un bleu pour un peintre, c'est un bleu, ça n'est pas ni du ciel ni de la mer. Un rouge, c'est un rouge, ça n'est pas ni du sang ni la muleta du torero, etc. C'est-à-dire que, alors, évidemment, plein de choses sont évoquées, mais on reste en peinture dans la relation à ce qu'est le langage lui-même de la peinture, et on se méfie généralement du message qu'on pourrait y accoler, qui serait un message de l'ordre du verbal, une sorte de slogan.
Alors, vous dites que les différentes techniques que vous utilisez, la sculpture, les collages, la peinture, etc., sont autant de formes de vocabulaire, en fait.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme dans un dictionnaire, plus le vocabulaire est riche, plus on peut parler précisément.
Alors justement, ce que vous évoquez dans votre peinture, c'est beaucoup la mémoire, le souvenir, etc. Est-ce que pour vous, de façon systématique, il y a un sens caché dans l'art ou dans la peinture plus précisément ?
Peut-être pas au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire que la peinture, c'est la peinture, encore une fois. Il n'y a aucune raison de cacher quelque chose qu'on pourrait dévoiler, de mon point de vue. Si cette chose cachée est verbalisable, c'est-à-dire si on peut l'énoncer avec des mots, aucune raison de le dire autrement. La peinture, c'est encore une fois une relation à certaines harmonies, certains sentiments, certaines matières, certaines couleurs. On caricature souvent effectivement mon travail en disant que c'est un travail de mémoire. Sauf que mémoire, c'est un mot, c'est pas de la peinture. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, le brun peut sembler être une référence aux vieilles photos sépia, aux couleurs de grenier, à tout ce qui jaunit avec le temps, etc. Mais pour moi, ça reste une couleur, une matière. Ça évoque des choses, mais ça ne prétend pas être le substitut de ces choses.
Alors ça, c'est votre point de vue d'artiste, mais pour la personne qui regarde les œuvres justement et qui les découvre, c'est à elle peut-être de trouver ce sens caché qui lui appartient et qui lui est propre.
Alors vous avez raison, mais tout ça dépend de la proximité de chacun avec le monde de la peinture. Ça serait vrai du monde de la musique également. C'est-à-dire que la truite de Schubert, c'est tout ce qu'on veut sauf une truite. Donc celui qui penserait comprendre les harmonies musicales qu'a convoqué Schubert en s'imaginant une petite truite dans une rivière, quelque chose évidemment lui échappe. Alors plus on est proche du langage pictural, plus on a la capacité de séparer, si on peut dire, la forme elle-même de ce qui serait une symbolisation, et plus on a des difficultés à le faire, plus on est proche des mots qui, en général, pour tout le monde, parlent avant que la peinture ne parle.
Alors, ça m'amène une autre question, Alain Kleinman, qui est celle de l'universalité, finalement. On peut retrouver le lien avec le symbole là-dessus. Vous dites que vous avez beaucoup voyagé et que vous avez trouvé dans ces voyages une forme d'universalité, de ressenti, d'émotion, etc. Et que vos œuvres, que ce soit à Cuba ou en Asie du Sud-Est, finalement, trouver un écho dans les émotions et le vécu des personnes avec qui vous avez pu échanger.
Alors oui, j'ai eu la chance d'exposer dans un certain nombre de pays. Là aussi, je me méfierais du mot universalité comme si tout était pareil. Ça, je ne connais pas. Par contre, je connais ce sentiment qui est d'essayer d'aller autant que faire se peut, aussi loin qu'on le peut, dans son identité. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, on rencontre l'identité de l'autre qui aurait fait le même travail dans son chemin. Et c'est là où les échanges humains deviennent absolument formidables. Donc, selon les continents, les pays, les personnalités, on trouve tout ça. Si on part de l'idée d'universel, c'est comme si finalement on n'avait plus rien à dire les uns aux autres.
On gommait quelque chose. Bah,
c'est comme si on était tout seul porteur d'un principe unique qui serait mondialisé. Heureusement, c'est pas le cas.
Alors par contre, je prends et je garde l'expression que vous utilisez du fait qu'il faut d'abord travailler son individualité pour pouvoir rencontrer l'altérité et se confronter, s'enrichir de l'altérité justement.
Oui, c'est-à-dire, plus on creuse en soi, plus à vrai dire on a des choses à dire à l'autre, et on attend de l'autre qu'il fasse le même chemin. Et quelles sont les choses passionnantes ? Ça se situe en général autour de la différence bienveillante, évidemment. Il ne s'agit pas de faire dire à l'autre sa différence pour le nier, l'annihiler, mais au contraire pour s'en enrichir et essayer que l'autre s'enrichisse de ce qu'on est nous.
Alors, une autre question qui me vient, de fait, l'art exige-t-il une forme d'introspection ou peut-être l'art est-il une forme d'introspection ?
Les deux sont vrais parce que c'est l'aventure de l'intérieur. C'est à vrai dire un peintre, un musicien, toutes les formes d'art. Chacun met sa vie au service de ce qu'il essaye de dire. Souvent, on me demande combien de temps il faut pour faire une toile. Il y a une réponse traditionnelle. Si on a 70 ans, on dit 70 ans et 15 jours.
Ouais.
Introspection, ça veut dire entrer en soi-même. Regarder à l'intérieur de soi. Alors, on entre non seulement en soi-même, bien sûr, mais également dans ce que le soi-même a à voir avec le monde.
Mmh.
C'est-à-dire dans la réception de l'autre, du monde. Donc ça se balade de manière beaucoup plus mobile, si on peut dire, entre différentes choses. C'est-à-dire que j'aurais peur, là également, je reviens sur le symbole, de symboliser ou de simplifier la complexité de cette activité.
Mmh. Alors, vous m'amenez une transition toute faite vers ma prochaine question. L'artiste est-il toujours celui d'une époque ? Est-ce qu'il peut se tenir à l'abri du monde et s'en tenir à l'écart ? Est-ce que c'est souhaitable, inévitable ? Qu'en pensez-vous ?
Alors, j'ai aucun principe dogmatique. C'est-à-dire, tout ce qui crée la possibilité de faire une œuvre, c'est-à-dire de trouver un vocabulaire nouveau pour dire autre chose du monde, de soi, est intéressant. Pour la plupart des personnes, je pense que c'est un dialogue avec le monde tel qu'il le trouve autour d'eux. Mais on peut tout à fait imaginer qu'un type s'enferme dans sa chambre, passe sa vie à se faire livrer de la nourriture et fasse vraiment une œuvre. C'est pas interdit, pourquoi pas. En tout cas, ce n'est pas moi qui serais le censeur d'une telle démarche. Moi, j'aime plutôt le monde, les personnes, les rencontres, les découvertes, les étonnements. Donc évidemment, je ne rechigne jamais à essayer d'être en dialogue. Je crois que globalement, de toute manière, on est tous le fruit d'un environnement social, historique, culturel, etc. J'invente pas le fil à couper le beurre à énoncer ça, mais donc il y a nécessairement une interaction, et elle est belle et elle est intéressante, mais on peut l'éviter.
Et donc vous avez besoin, en tant qu'artiste, du regard des autres.
Alors ça, c'est encore une autre question, c'est-à-dire, est-ce que l'œuvre existe en soi-même, c'est-à-dire est-ce qu'on l'a fait par désir de parler, ou est-ce qu'on l'a fait pour la présenter aux autres et pour que le regard de l'autre, comme vous dites, la justifie ? Moi, je pense que ça se fait d'abord par besoin de parler. C'est-à-dire que on a besoin de définir notre chemin, notre parole, notre identité. Et c'est une sorte de deuxième temps. En peinture, c'est très clair, le travail d'atelier qui est solitaire et le travail de vernissage où d'un seul coup, on dit bonjour à 500 personnes dans une soirée cocktail, sont deux identités très différentes. Alors c'est très réconfortant de voir qu'après avoir fait une œuvre tout seul dans son coin en pyjama, d'un seul coup, ça peut toucher et parler à beaucoup de personnes. Donc c'est réconfortant, c'est magnifique. Je suis pas sûr que ça soit le but premier de l'activité artistique.
Alors Alain Kleinman, vous avez notamment écrit un essai intitulé « Le petit livre des paradoxes et des illusions » qui questionne notre rapport à la rationalité avec des illusions d'optique et d'autres jeux de mots qui sont très, très intéressants et très déboussolants. Et donc qui questionne notre rapport à la rationalité et à la vérité. Qu'est-ce que vous en diriez ?
Alors d'abord, c'est un travail, à vrai dire, c'est très curieux, que j'avais commencé quand j'avais une vingtaine d'années. Un demi-siècle s'est écoulé. Et quelquefois, on a le bonheur dans la vie de reprendre quelque chose qu'on estime n'avoir pas terminé.
On sent que c'est quelque chose qui vous a donné du plaisir, effectivement.
Oui. Alors, à l'époque, je faisais effectivement des mathématiques, d'où l'interrogation sur les logiques. J'ai eu l'occasion de faire un DEA de sémiologie avec Julia Kristeva. Donc ça, c'est une interrogation. On en parlait tout à l'heure sur le rapport du signe au sens, la méfiance vis-à-vis de toute une série de comportements énonciatifs qui induisent en erreur. À l'époque, je travaillais aussi pour le monde diplomatique, avec des sortes d'images doubles, c'est-à-dire qu'on tenait le journal dans un sens, on lisait une image, et si on retournait le journal, on en lisait une autre. Et tout ça m'a semblé, à un moment donné, devoir quand même être achevé, donc j'ai passé un certain nombre de mois pour réunifier ça. Il y a aussi bien des textes, des images, des propositions logiques, et donc sont les éditions Hermann qui l'ont édité il y a peu de temps.
Et on le lit avec beaucoup de plaisir.
Bah, tant mieux, parce que moi je l'ai fait avec beaucoup de plaisir.
Et c'est très, très questionnant et perturbant, effectivement. Vous avez accepté que certaines de vos œuvres illustrent le numéro 2 de notre revue Chemin de Traverse, qui était consacré à la transmission. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté?
D'abord, vous êtes sympathique, et c'est le fait que vous me l'avez demandé. Ensuite, je suis pas maçon moi-même, mais j'ai toujours senti beaucoup de connivence, d'amitié, de circulation avec des amis qui m'en parlaient. J'ai eu le privilège de faire certaines interventions aussi dans des loges, et là aussi j'étais très bouleversé par la qualité d'écoute, de questions. Enfin, ça me, il y a une sorte de bienveillance, de respect que j'ai trouvé vraiment émouvant. Donc tout ça me fait penser qu'il y a quelque chose d'assez naturel pour moi à dire oui avec le sourire.
Et on vous en remercie.
Et moi je vous en remercie aussi.
Merci beaucoup Alain Kleinman. L'art peut donc être considéré, à vous entendre, comme un outil d'éveil, d'introspection, un véhicule initiatique, dirions-nous, en tant que franc-maçon. L'art n'est pas seulement une forme d'esthétique, mais un moyen de relier l'homme à ce qui est plus grand que lui. C'est cette quête de l'invisible, ce désir de transcender l'ordinaire qui confère à l'art toute sa puissance, toute sa beauté et son pouvoir de transformation. Merci Alain Kleinman de nous avoir éclairés. Nous espérons par cet échange avoir questionné nos auditeurs et ouvert à l'émerveillement et au plaisir que peut procurer l'art.
Merci à vous Hervé et à Anne.
Nous vous invitons à vous rendre sur le site d'Alain Kleinman pour découvrir son travail. Vous pourrez également retrouver quelques-unes de ses œuvres dans le numéro 2 de notre revue Chemin de Traverse que vous pouvez vous procurer via notre site droithumain-france.org. Nous remercions à la technique Anthony Thomasson, à la réalisation Jean-Christophe Francis et à la préparation Claire Poinsignon. Bon dimanche à tous.